Alors les ovnis ou phénomènes aérospatial non identifiés. Alors en France, par exemple, depuis 40 ans, il y a plus d'une centaine de cas qui ne sont à l'heure actuelle inexpliqués. Depuis une dizaine d'années maintenant, de nombreux pays tels que les USA, le Royaume-Uni, le Chili, Israël ont rendu public de nombreux rapports, documents, témoignages, vidéos rapportant ou montrant ces phénomènes inexpliqués. Le Pentagone a par exemple déclassifié 3 vidéos dans lesquelles il était possible de voir des phénomènes aériens non identifiés entre 2004 et 2015. En juillet 2020, d'après l'excellent New York Times, une unité spécialisée, donc dernièrement, en juillet 2020, c'est tout à fait récent, annonce qu'elle va rendre public certaines de ses découvertes de son département, et notamment qui a été débriefée sur des véhicules qui, a priori, n'auraient pas été fabriqués sur Terre. Avi Loeb, directeur du département d'astronomie de la prestigieuse université d'Harvard, déclare et affirme qu'un objet détecté en 2017 dans le système solaire est le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre. Enfin, en France, dans les années 90, le rapport Cometa a été rendu au gouvernement français et je crois, a priori, Alain, est passé un peu inaperçu. Il est consultable toutefois par tout le monde, hein, sur Internet.
Il faut arrêter de rêver avec des films qui racontent un peu n'importe quoi. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Alors, on va voir que plus on gratte derrière l'aspect l'intérêt pour les militaires, plus on gratte et plus on découvre des choses qui nous posent de vraies questions de plus en plus importantes au niveau d'une société, d'une civilisation comme la nôtre. Donc, c'est tout un ensemble.
Et je me souviens très bien, quand j'ai commencé à étudier les ovnis, en 1974, parce que j'ai voulu vérifier une dépêche de l'agence France Presse qui racontait l'affaire de Turin, Gérard Dupanier, qui était le correspondant de l'ORTF à Rome, est allé à Turin pour refaire l'enquête en traînant des pieds. Je me souviens très bien, il me disait « Oh, ouais, vous n'avez rien d'autre à faire à Paris que nous empoisonner la vie, aller faire des enquêtes idiotes sur des trucs qui n'existent pas ». Donc il est allé en traînant les pieds. Et puis il a trouvé les témoins de l'affaire de Turin. L'affaire de Turin, qu'est-ce que c'était ? C'était d'abord en plein jour, au mois de novembre, au-dessus de l'aéroport international de Turin, une sorte de lumière, une grande lumière qui faisait peut-être 15 ou 20 mètres de diamètre, qui ne bougeait pas alors qu'il y avait un vent de 40 km à l'heure en altitude. Donc ce n'était pas un nuage, ce n'était pas un ballon-sonde. Et cette lumière était vue par un équipage d'Air France qui était à l'atterrissage, qui a dit effectivement, dans mon 180, il y a cette lumière, mais moi j'ai des passagers à bord, j'atterris. Un avion d'Alitalia décolle, même chose, il voit la lumière, et il y avait un troisième équipage d'avion qui était un Piper Aztec, un bimoteur, qui disait à la tour de contrôle, écoutez, moi j'ai pas de passagers, si vous voulez, je peux essayer de m'approcher pour voir ce que c'est. Alors, autorisation lui a été donnée, il s'est approché à 350 km/h, la lumière ne bougeait pas depuis à peu près une douzaine de minutes, et dès que l'avion s'est approché, elle est partie. Le gars s'est mis en piqué pour essayer de la rattraper à 400 km/h, il a été laissé sur place. Fin de cette situation tout à fait étonnante. Lorsque Gérard Dupanier est arrivé à Turin, il a découvert que le radar civil, comme le radar militaire, avait détecté l'objet volant non identifié. 12 ans après, TF1 a refait l'enquête et on a fait venir d'ailleurs l'un des deux pilotes, je ne sais plus si c'était celui d'Air France ou d'Alitalia, il a dit bah, « écoutez, 12 ans après, on a fait toutes les mesures, on a tout vérifié, on n'a toujours pas d'explication ».
Il y a le cas quand même d'un général qui a vu le patron de l'armée de l'air, des forces de l'armée de l'air, la FATAC, hein, c'est-à-dire du transport de l'armée de l'air. Peut-être vous pouvez peut-être en dire un mot, parce que ça, c'est quand même, c'est pas un petit. Hein.
J'aimerais en dire un mot, justement, parce que c'est un témoignage il y a une séquence où on voit le général Millau qui témoigne de ce qu'il a observé. Alors, il dit, j'étais à 1500 mètres sol, je pense qu'il devait être sur un transal, puisqu'il devait être sur un bimoteur de l'armée, et tout d'un coup, je vois arriver, avec mon copilote, un objet qui avait la taille d'un grand 747 qui nous arrivait dessus. Alors, tout de suite, on a appelé la tour en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se passe au point de vue du trafic aérien? Qu'est-ce que c'est que cet objet? Et les gens me répondent, nous, on ne voit rien. Bon. Alors, cet objet se rapproche et ils sont à 1500 pieds, c'est-à-dire à 500 mètres sol, c'est-à-dire vraisemblablement en phase d'atterrissage. Et à ce moment-là, raconte le général Millau, j'ai vu passer un objet de la taille d'un grand porte-avions. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, un grand porte-avions, il n'y a que deux options. Soit alors, Millau et son équipage ont besoin de soins dans un hôpital psychiatrique en urgence, soit alors c'est une machine extraterrestre. C'est pas, on voit mal comment, en 1990, un pays étranger aurait pu mettre en œuvre un truc de la taille d'un grand porte-avions.
Le fait est qu'il y a quelques pilotes qui acceptent de porter témoignage, oui. Ce qui est bon signe, parce que c'est loin d'être évident, dans la mesure où, que ce soit les pilotes civils ou les pilotes militaires, bon, ils ont un métier qui est difficile, qui nécessite une parfaite condition physique et psychologique, et donc s'exposer à rapporter des observations qui peuvent être considérées comme douteuses, est un risque pour leur carrière et leur crédibilité.
Je rappelle que la première exoplanète a été découverte en 1995 et que le principal argument des anti-ovnis jusqu'en 1995, c'était « vous pouvez faire toutes les observations que vous voulez sur la planète Terre ». Je vous rappelle, Monsieur Bourré, que les plus grands observatoires du monde, le Mont Palomar par exemple, avec un miroir de 5 mètres, c'était le plus gros à l'époque, je vous rappelle que les plus grands observatoires du monde n'ont jamais trouvé la moindre planète tournant autour d'une autre étoile. Donc, fin de la discussion. Comment voulez-vous qu'il y ait des extraterrestres si l'univers n'est composé que d'étoiles avec des milliards de degrés à leur surface et une seule étoile qui s'appelle le Soleil, avec quelques planètes qui tournent autour, dont une seule, la Terre, qui est prédisposée à faire émerger la vie. C'était l'argument majeur. En 1995, on découvre la première exoplanète, puis une deuxième, puis une dixième, puis des milliers. Et la NASA, il y a 4 ans, a estimé, écoutez bien le nombre, parce que je suis effaré de voir que les confrères n'ont pas repris cette information majeure. La NASA a dit, nous avons, par l'intelligence artificielle de nos ordinateurs, comptabiliser les galaxies qui ont été observées par les 3 observatoires qui sont dans des satellites tournant autour de la planète Terre, et nous estimons à 60 milliards le nombre de planètes pouvant abriter la vie dans notre seule galaxie. Et le nombre des galaxies est passé de 200 milliards, avant on disait il y a 100 à 200 milliards de galaxies, de 200 milliards à 2000 milliards. C'est-à-dire que l'univers a été multiplié par 10, l'univers visible, observé, on n'en a pratiquement pas dit un mot dans la presse. C'est absolument invraisemblable.
Ce qui va dans ce sens-là, mais ça, c'est que, effectivement, pendant très longtemps, les rapports qui étaient faits, qui étaient commandés par les États, sont des rapports qui sont restés confidentiels. Et on assiste depuis 10 ans, progressivement, on assiste à la révélation, c'est-à-dire à la publication par les États de ces rapports, les uns après les autres, et qui tous, en définitive, posent de vrais problèmes. Et tous ces rapports engendre aujourd'hui une volonté d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on voit, tu l'as cité tout à l'heure, on a par exemple aujourd'hui, on a les Israéliens qui font des déclarations, on a les Américains qui lancent une nouvelle étude et qui investissent énormément d'argent. En définitive, je crois que le problème n'est plus de se dire il n'y a pas quelque chose, ce sont des phénomènes naturels simplement incompris. Non, tout le monde a pris conscience maintenant qu'on est devant quelque chose qui nous dépasse.
au début des années 90, j'ai eu des contacts étranges avec des personnages qui prétendaient venir d'une autre planète. Alors, comment ça se passait? Eh bien, j'avais un Macintosh, vous savez, le petit Macintosh qui ressemble un peu à un cube, comme ça, et ce Macintosh avait un disque dur, mais il n'y avait aucune connexion avec quoi que ce soit. Et tout d'un coup, il s'est passé la chose suivante, c'est que quand je pouvais mettre des messages sur mon disque dur dans un simple fichier Word, eh bien, une semaine, deux semaines, trois semaines après, j'avais des réponses postales, et maintenant de tous les pays. Et ça a dû pendant des années. Hein, voilà. Alors effectivement, j'ai raconté ça dans les livres, on ne va pas entrer dans ce détail. Mais il y a une chose, c'est qu'à un moment, j'ai reçu ce genre de message évoquant un agenda avec un plan en disant nous comptons entrer en contact avec les terriens en 2035 et puis après, si tout va bien, en 2045. Et moi, j'ai répondu sur mon ordinateur, mais c'est beaucoup trop court, vous n'imaginez pas ce qui peut se passer. Une planète, ça ne se contacte pas comme ça, il y a des problèmes immunologiques considérables. Alors, j'ai simplement fait la suggestion suivante, j'ai dit voilà, moi ce que je suggérerais, c'est que vous injectiez des informations scientifiques qu'on pourrait à ce moment-là mettre dans le milieu scientifique. Et la réponse a été immédiate. Et j'ai reçu des informations de ce genre. Et ce modèle Janus, c'est la traduction de tout ça. À ce moment-là, vous voyez que le problème que personne ne veut aborder, y compris sur un plateau comme celui-là, on parle des militaires, on parle des observations, c'est le problème du contact. Ce contact, il a déjà eu lieu, il a lieu.
J'ai rencontré des tas de gens, je suis allé en Russie, j'ai rencontré l'ambassadeur de Russie en France qui m'a présenté des pilotes d'avions qui avaient observé des objets volants non identifiés, tout ça était confidentiel. J'ai rencontré des gens de la CIA, j'ai rencontré des gens des services secrets français, j'ai rencontré des gens du Mossad, j'ai rencontré évidemment des juifs, des chrétiens, des musulmans à très haut niveau, initiatiques, qui m'ont donné leurs sentiments. Le sentiment que j'ai est le suivant, et il est vérifiable par chacun de vos téléspectateurs, quelle que soit leur religion, juif, protestant, chrétien, hindou, musulman, etc. C'est que d'abord l'origine des religions, de toutes les religions, c'est un contact déjà qui a eu lieu entre nos ancêtres et une civilisation extraterrestre. Et la meilleure preuve de ce que je dis, c'est que dans toutes les religions, on attend le retour d'eux. Les juifs attendent le retour du Machiav. Les musulmans aussi, ils attendent le retour de l'envoyé de Dieu. Les chrétiens aussi. Pourquoi le retour? Le retour parce qu'il y a un aller. Et pourquoi il y a un aller? Parce que ce n'est pas Dieu, évidemment, ce sont des extraterrestres qui ont visité nos ancêtres et que nos ancêtres ont pris pour des dieux. Si vous lisez la Bible qui est commune aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans, puisque l'islam reconnaît la Bible comme étant un livre sacré, mais dit l'islam trahi par les juifs et par les chrétiens, et bien si vous lisez ces livres dits sacrés, dès les premières lignes de la Genèse, qu'est-ce qu'on peut lire? Genèse chapitre 6, les fils de Dieu, trouvèrent les filles de la terre à leur goût et eurent commerce avec elles et leur firent des enfants. C'est-à-dire qu'il y a probablement dans notre ADN un mélange d'une civilisation ou deux civilisations plurielles venues des étoiles et de nos ancêtres. Alors ce que je dis évidemment est tellement énorme que tout le monde rigole, c'est pas un problème, ça fait 50 ans que j'entends les gens rigoler.
Depuis 10 ans, il y a un développement fantastique de la physique quantique, et la physique quantique nous permet de comprendre, je pense sur le plan scientifique, des quantités de choses qui étaient totalement incomprises par la physique traditionnelle. Ce qui fait que, comme on sait que dans 10 ans, le quantique va devenir l'utilisation de la physique la plus importante, parce que les Chinois surinvestissent là-dessus actuellement, que les Américains s'y sont mis, et nous dirons tout ça fait que, là encore, ça va modifier, ça va bouleverser nos impressions et nos idées.
Il faut faire le tri aujourd'hui. Vous avez, parmi les exemples qui sont cités, et notamment les archives qui ont été publiées par les Britanniques et la CIA, il y a un cas qui s'est produit en 1956 de mémoire, qui est très connu, et qui s'est produit entre deux bases aériennes britanniques, qui étaient la base de Ben Waters et de Leckanith. Pendant un certain nombre d'heures, et ça ressemble beaucoup à l'histoire du carrousel de Washington dont vous avez peut-être entendu parler. Pendant un certain nombre d'heures, des phénomènes lumineux se sont déployés de façon unitaire ou en nombre avec des certaines géométries et passés d'une vitesse qui était une vitesse nulle à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres heure instantanément. Ça a été observé par des radars au sol, ça a été observé par des pilotes, ça a été enregistré également par un radar d'avions de chasse. Bon, 1956, hein, il n'y a toujours pas d'explication sur ce sujet.
En train de parler, on parlait là, par exemple, du général israélien qui a parlé d'une station sur Mars. Bon. Aujourd'hui, on dit, bon, pour nous, on dit, quand on a envoyé des hommes sur la Lune, ça paraissait, en l'époque, le monde entier, la nuit où ça s'est passé, enfin, en tout cas en Europe, la nuit où ça s'est passé, les gens étaient dans la rue pour regarder. Moi, je m'en souviens, c'était tellement incroyable qu'il y ait des types qui soient là-haut, qu'on ait pu envoyer là-haut. Bientôt, ça va être sur Mars. Au fur et à mesure, on va envoyer des êtres humains ailleurs, on va prendre conscience qu'il peut venir de l'extérieur des gens qui viennent nous voir, enfin des gens, des êtres quels qu'ils soient, hein, que qui viennent choquants du tout. Avant, c'était inimaginable qu'on donnait sur notre planète. Au fur et à mesure où nous-mêmes, on se met à aller ailleurs, on dit, mais après tout, pourquoi pas d'autres ?
Et alors, après, se pose le problème, je reviens là-dessus, la question que personne ne veut aborder. Est-ce qu'il y a des contacts ? Hein ? Voilà. La vie, c'est la chose la plus coriace qui existe dans l'univers. Et vraiment, pour que la vie n'existe pas, il faut vraiment mettre le paquet. Mais il y a une chose, c'est que vis-à-vis de ces histoires d'extraterrestres et de contacts, on dit toujours « les peuples ne sont pas prêts parce que ça créerait des désordres considérables ». Mais est-ce que c'est vrai ? Jusqu'à quel point ? Est-ce que nous ne serions pas prêts à envisager ce genre de choses ? Il y a quand même des gens qui sont capables d'encaisser une chose pareille. Et ça, je pense que maintenant, c'est la question que nous devons nous poser. Sommes-nous capables ?
Et là, le département d'Harvard, et qui dit, qui fait un livre, comme tu viens de le rappeler, et qui dit, Wamama étant cette espèce de forme longue de 400 mètres à peu près, et je crois une cinquantaine de mètres de large, hein, qui est passé, il y a 2-3 ans, qui est passé à côté de la Terre et qui n'avait aucune des caractéristiques classiques d'un météorite ou d'un quelque chose. Il ne rentrait pas dans la mécanique de Kepler. Hein, enfin dans les, donc. Et là, il dit, donc c'est pas possible, c'est autre chose. Et du coup, il débouche en disant, seule possibilité, on revient à la même chose, seule possibilité, c'est quelque chose ce qu'on peut appeler là, les extraterrestres. Et moi, je crois que c'est très intéressant, parce que quand tu vois des savants, on voit des savants comme les Américains à Harvard, quand on voit donc ce que dit Jean-Pierre Petit en France, quand on voit ce que disent certains Russes qui ont travaillé sur ces questions-là, en particulier les mathématiciens russes, bon, on se dit, il y a effectivement, de plus en plus, des grands chercheurs commencent à dire, mais il y a quelque chose. Alors, on n'a pas encore les preuves, on commence à l'imaginer par le calcul, on commence à l'imaginer par de l'observation, on n'a pas encore de preuves. Et de l'autre côté, au fur et à mesure de l'accumulation des preuves techniques, alors je reprends un peu ce que disait tout à l'heure M. Dini pour Sigma, au fur et à mesure, on avance.
Vous avez le patron du service d'astrophysique de l'Université de Harvard aux États-Unis qui, il y a quelques jours, a dit, mais le fameux objet là, qui est tout à fait bizarre, qui est passé assez loin de la planète Terre, mais entre la planète Terre et le Soleil, ça peut être un vaisseau extraterrestre.
Maintenant, venons-en à la physique quantique. La physique quantique, évidemment, intéresse les lois de l'univers. Oui. Que ce soit à des centaines et des milliers d'années-lumière ou au voisinage de la Terre. Normalement, c'est la même physique. Et la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est la question des modèles d'univers et des dimensions. Une des questions qu'on peut se poser par rapport aux observations, et c'est un sujet que j'ai noté dans les interviews récentes faites par Louis Elizondo, ex-TTSA, et qui, évidemment, se balade entre la DIA et la fameuse task force sur les UAP, qui est en train de plancher en ce moment. Il a évoqué dernièrement un sujet qui est un peu nouveau, car on a parlé des observations radar faites par le Nimitz. Au niveau des avions, c'était pas très clair, savoir si un d'eux avait accroché ou pas sur l'un des aéros. Il a évoqué la question d'un brouillage, et en fait, il a rectifié ses propos. Et il a dit finalement, non, c'est pas vraiment un brouillage. Imaginez qu'à l'emplacement de l'objet, il y a une distorsion spatio-temporelle. Donc, en quelque sorte, il y a une onde électromagnétique qui est mise par un radar, et elle devrait se réfléchir naturellement à l'endroit de l'objet, et il se trouve qu'elle est, comme un avion furtif pourrait le faire, mais avec une physique sans doute différente, déformer l'interaction. Bon. Et donc, j'en reviens à la question, effectivement, des modèles et de la physique quantique. Si l'on pouvait faire des observations, des enregistrements qui montrent de telles distorsions qui nous permettent d'avancer sur la concordance entre un modèle et l'observation, ça ferait aussi avancer des choses dans notre environnement scientifique. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Il y a quelque chose que je comprends. C'est comment se fait-il que notre société, toute société confondue, on est des femmes et des hommes qui disent quand on croit en Dieu, ça choque personne. Et, normal, voilà, ils croient en Dieu et on n'a aucune preuve scientifique à un moment donné de dire que Dieu existe. Certains scientifiques disent je crois en Dieu mais je n'ai aucune preuve pour l'annoncer. Et quand on dit qu'on peut croire à une vie extraterrestre, à une vie intelligente dans ces milliards et milliards de planètes exoplanètes, bah c'est vrai que ce n'est pas pris au sérieux.
Première constatation à travers tous les gens des services secrets que j'ai pu rencontrer au cours des 50 dernières années, les déclarations de Chaim Eshed disant « 1. Les extraterrestres sont présents parmi nous depuis longtemps, le gouvernement américain le sait, le président Trump allait d'ailleurs le révéler, puis on lui a conseillé de ne pas encore en parler, c'était trop tôt, le gouvernement israélien le sait, enfin certains membres du gouvernement israélien. » Et puis, deuxième affirmation, donc ça c'est déjà énorme, mais moi ça ne m'a pas du tout surpris parce qu'il y a longtemps que je le sais. Deuxième affirmation, mais il y a une base sur la planète Mars, et puis vous avez des extraterrestres et certains représentants de la planète Terre qui s'y rencontrent. Complètement farfelu et complètement absurde, parce que s'ils sont sur la planète Terre, ils n'ont pas besoin d'aller se rencontrer, évidemment, sur la planète Mars. C'est ce que les manipulateurs des services secrets m'ont expliqué, c'est la théorie de l'accordéon. Donc, vous dites, dans un premier temps, une vérité qui est énorme, les extraterrestres sont parmi nous, et ça fait d'ailleurs quelques milliers d'années, et pour calmer le jeu, vous balancez une deuxième info qui est, elle, totalement invraisemblable, et qui décrédibilise la première. Mais vous mettez quand même dans la tête des gens la première information. C'est la théorie, enfin, ce n'est pas la théorie du complot, parce que ça, c'est une manipulation de la CIA après l'assassinat de Kennedy, mais c'est la manipulation des foules par l'utilisation de l'information accordéon.
On est conscient que la prise de conscience par, et Jean-Pierre peut-il le rappeler, la prise de conscience par les scientifiques de l'apport de la physique quantique et des modifications qu'elle introduit dans tous nos raisonnements physiques et mathématiques, parce que ça change énormément de choses, font qu'on est encore, à travers ça, on est encore en train de progresser. Mmh. Et de l'autre côté, la réflexion sur l'autre partie, sur la, dans le cas de la cosmologie, elle aussi évolue et devient de plus en plus dense, ne serait-ce que par toutes les découvertes qu'on vient d'évoquer, hein, les exoplanètes, comme disait Eugénie, mais il y a 20 ans. Oui, on est en train de découvrir qu'il y a quantité de choses qu'on ne savait pas ou qu'on ne comprenait pas, mais qui commencent à nous ouvrir des horizons fantastiques.
J'avais été très frappé par le témoignage d'un pêcheur, je crois que c'était au large de Barneville-Carteret dans la Manche, où il disait, moi j'étais en mer en train de pêcher professionnellement, lorsque soudain la mer s'est ouverte comme une bouche, et de cette bouche est sorti un engin qui est parti dans l'air, comme ça, à toute vitesse, sans faire de bruit, et sans dégouliner. Or, quand vous avez quelque chose qui sort de la mer, que ce soit un missile ou que ce soit un sous-marin, évidemment, il y a l'eau qui coule de tous les côtés. Et la mer qui s'ouvre comme une bouche, j'ai compris après que ça pouvait peut-être être ou de la magnéto-hydrodynamique, ou l'équivalent d'une science venus d'ailleurs, que nous ne maîtrisons pas encore, et qui prouvent que nous sommes bien confrontés à une ou des intelligences venues d'autres planètes et qui ont peut-être des bases dans le fond de la mer.
Alain, on a parlé du rapport Cométal. On revient sur la France, hein, le côté franco-français. Je crois que c'est un rapport, vous me dites, hein, si mes informations sont bonnes, qui a été donc rapporté au gouvernement français et au Premier ministre dans les années 90. Qu'en est-il de ce rapport-là? Pourquoi on n'en entend pas parler? Alors, il est visible par tout le monde, donc ça c'est clair.
C'est un rapport qui a été, qui a été fait dans le cadre des commissions de l'IHEDN.
Oui.
Donc c'est très sérieux. Et l'IHEDN, ce n'est pas uniquement des militaires, c'est un mélange de chercheurs, de hauts fonctionnaires. Donc il y a tout un ensemble de gens très variés, mais tous de très bon niveau. Et ça a été à l'époque, ça a été un vrai choc, parce qu'ils ont sorti ce rapport qui était sur, justement, les ovnis, à une époque où c'était considéré comme farfelu par la plupart des gens. Et qu'un institut comme l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, se fasse un rapport pareil à travers. Ça a créé un choix, à tel point, ça a été présenté au ministre, qu'il a écouté, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt. Mais derrière, comme toujours, comme ça choquait plein de monde, ça a été évoqué par pratiquement ici nous tous. Parce que c'était vraiment à l'opposé, parler de ça, c'était vraiment se dévaloriser pour les militaires. Donc il y a eu une espèce de chape de plomb qui est tordue sur ce rapport, alors que ce rapport était officiel. Bon. Et résultat, il est disponible, mais pratiquement peu de gens, à part les professionnels et les spécialistes, peu de gens en ont parlé. Et c'est très dommage parce que c'est un rapport qui a été lu dans le monde entier. Parce que c'est une des rares fois où les Français ont sorti quelque chose qui avait le label du ministère de la Défense, parce que l'IHEDN, mais également ça dépend du Premier ministre.
On est parti dans tous les sens, c'est très bien, parce que c'est un phénomène totalement global, cosmique, on ne peut comprendre les ovnis, l'intelligence qui nous visite, les intelligences qui nous visitent, parce que je pense qu'on est visité, non pas par une civilisation, mais sans doute par plusieurs dizaines.
Il y a un certain nombre de faits qui tentent à démontrer la présence de phénomènes avec des effets qui sont soit des effets inconnus, soit des effets qui étaient inconnus il y a quelques décennies. Des effets électromagnétiques, des effets sur des électroniques de commande d'avions, de base, alors nucléaire ou pas, mais en tous les cas, il y a eu des constats qui ont été faits aux États-Unis, etc., en Russie. Bon. Donc tout ça amène aujourd'hui à la question de que sait-on de ces effets, que sait-on de ces phénomènes et est-ce qu'on peut les caractériser? Ce qui est un vrai sujet de recherche aux États-Unis. Je rappelle simplement que le programme de recherche de la DIA, le fameux programme ATIP dont ont parlé les Américains récemment, indique notamment par des sociétés, des travaux menés par des sociétés privées comme Bigelow Aerospace, pour recenser tous les cas qui sont survenus sur les bases américaines.
Face à 200 journalistes de la presse mondiale, une conférence de presse qui a été faite par le Press Club, nos confrères du Press Club de Washington, en 2010, et vous avez une dizaine de témoins militaires à la retraite de haut niveau, des lieutenants-colonels, des colonels, des généraux, qui expliquent comment ils ont été confrontés au phénomène OVNI dans le cadre de leur responsabilité militaire. C'est absolument passionnant, et là vous verrez que ça fait longtemps que les autorités savent que nous sommes visités par une intelligence qui n'est pas d'origine humaine. On est passé, depuis que la NASA a fait, grâce à l'intelligence artificielle, une comptabilité de ce qui avait été découvert par les trois télescopes tournant autour de la Terre et qui a été synthétisé par cette intelligence artificielle, on est passé de 100 à 200 milliards de galaxies à 2000 milliards de galaxies. Ça, c'est extraordinaire. On a multiplié, encore une fois, l'univers par 10. Il y a 5 ans, on n'en a pas dit un mot. Deuxièmement, la NASA a dit « Nous estimons que dans notre seule galaxie, dont on ne sait pas à quelques dizaines de milliards près combien il y a d'étoiles, on dit entre 180 et 300 milliards en gros, eh bien, nous estimons qu'il y a au moins 60 milliards de planètes pouvant abriter la vie. 60 milliards de planètes pouvant abriter la vie. Donc même si on prend une hypothèse extrêmement faible en disant « Oui, d'accord, c'est bien gentil tout ça, mais il n'y a qu'une planète sur 10 où la vie peut naître, une planète sur 100, une planète sur 1000, une planète sur 1 million, une planète sur 1 milliard, ça fait encore des dizaines de milliers ou de millions de planètes habitées. Et comme la vie sur Terre La Terre, elle a 4 milliards et demi d'années, l'univers a 14 milliards d'années. Donc, vous voyez, il y a des vies qui ont pu naître des milliards d'années avant la nôtre. De quoi serait capable une vie qui n'aurait que 100 000 ans d'avance, ou même 10 000 ans d'avance? Il suffit de se replonger dans le passé et que d'un coup de baguette magique, on se retrouve en l'an zéro, il y a 2000 ans, avec tout ce que nous avons autour de nous, les ordinateurs, les hélicoptères, les fusées, les satellites, les tablettes numériques, etc. Les gens de l'époque ne comprendraient absolument pas.